Les réunions sont des arnaques. Je suis adepte de la fusion des cerveaux. Je réunis souvent des personnes aux profils différents, aux avis divergents, aux compétences opposées, pour organiser des réunions sur des sujets spécifiques. Mais j'ai la chance d'être le meneur de ces réunions. Il y a quelques années, et ça m'arrive encore aujourd'hui, je subissais des réunions dont je ne pouvais me soustraire, et ça me glace le sang. J'ai une vive allergie et je ressens physiquement un rejet à mesure que la réunion approche. Ma réaction, trop forte, je le sais, est intimement liée au fait que la majorité de ce temps est complètement gâchée. Quand je suis l'organisateur, j'impose mes règles. Et quand je suis simple participant, j'essaie autant que possible que l'on applique mes méthodes également. Si rien n'est négociable, je regarde si cette réunion peut être amusante et ou me faire passer un moment avec des gens que j'apprécie. Si c'est le cas, je considère que je prends ce temps dans mon temps personnel. Si ce n'est pas le cas, je préfère ne pas y aller et en assumer parfois les conséquences. Cependant, je ne crains jamais de perdre quelque chose ou de passer à côté de quelque chose. Car si l'équipe dont je vais faire partie lors de la réunion n'est pas capable de prendre la gestion du temps comme une priorité fondamentale, alors il y a de fortes chances que nous n'aurions rien pu construire ensemble dans le moyen terme. En France, nous sommes les mauvais élèves des réunions. Les retards y sont fréquents et admis. Le résultat de la réunion importe peu au niveau individuel et le concept d'avoir fait une réunion est souvent plus fort que le contenu de la réunion en lui-même. Mais essayez d'arriver en retard à une réunion en Allemagne et vous serez surpris. Encore mieux, en Suède. La réunion ne peut prendre fin que si l'objectif de la réunion est pleinement atteint. Car oui, nous sommes les seuls à voir ces moments professionnels comme une manière simple et justifiée de passer le temps sans effort et sans travail. Mais une réunion n'est qu'une grande auberge espagnole. On n'y trouve que la somme des choses que tous les participants apportent. Je vais vous révéler maintenant les méthodes que j'applique. Si on me demande de venir à une réunion et qu'elle ne respecte pas au moins 50% de cette liste, alors je n'y vais pas dans 99% des cas. Tout simplement. Les buts de la réunion. Une réunion doit avoir un thème clair, mais aussi des objectifs précis. Ils doivent être communiqués à tous les participants en amont. Le brief doit être succinct pour ne pas charger mentalement et inutilement les participants. J'ai reçu encore récemment un brief de 3 pages pour une réunion que je n'ai pas lu. Mais le brief doit être assez précis pour que tous les participants puissent se projeter sur le déroulé et sur ce qu'ils pourront apporter personnellement au contenu. Le temps de la réunion doit aussi être défini en amont. Chaque personne doit recevoir, par écrit si possible, les thèmes, les buts, la durée, dans un style dit CCP, clair, concis, précis. Le délégué temporel. Le délégué temporel est une personne, qui ne doit jamais être la même, étant en charge du temps. Elle a différents pouvoirs que tout le monde doit respecter à la lettre. Si les participants ne connaissent pas ce principe, il convient bien sûr de le leur expliquer durant 1 ou 2 minutes avant de commencer la réunion. Le délégué temporel va se voir confier la responsabilité du temps qui passe. Lorsque 90% de la réunion est écoulée, il doit informer l'Assemblée afin de recentrer les 10% qu'il reste sur les buts prédéfinis de la réunion. Il a également les pouvoirs suivants. Couper un monologue trop long, qui n'apporte plus rien de nouveau. Couper les dérives, extrapolation sur des sujets connexes, discussion personnelle, hors-sujet, monologue à tendance autobiographique, anecdotes, etc. Couper un échange qui dure entre plusieurs intervenants qui, consciemment ou sans s'en rendre compte, disent la même chose. Faire des coupures pour faire un résumé et passer à la suite, à d'autres idées ou à d'autres intervenants. Le délégué doit être respecté, même si l'on n'est pas toujours d'accord avec lui, surtout lorsque l'on est concerné par l'une de ses décisions. Il n'y a pas à en faire une affaire personnelle ou à y mettre de l'ego. En changeant à chaque réunion de délégué temporel, chacun pourra expérimenter ce rôle et comprendra mieux le côté factuel de la mission. Pour les équipes habituées, je constate qu'à terme, tout le monde s'autogère car les individus se rendent compte à quel moment ils se seraient coupés eux-mêmes s'ils avaient été en charge du temps ce jour-là. Évidemment, lors de cette réunion, le délégué temporel ne participera pas, ou très peu à la réunion. Cette mission lui prendra déjà toutes ses ressources, son écoute et sa capacité de jugement. Sans délégué temporel, votre réunion ressemble à un train lancé sans conducteur. Il arrivera peut-être à destination, mais rien n'est certain. La durée de la réunion. Il va falloir faire un effort pour les personnes qui font des réunions depuis longtemps. Une longue durée est absurde. Passons rapidement sur le fait que, si la réunion est bien menée, alors les temps inutiles et pourtant majoritaires seront supprimés. Il faut aussi prendre en compte la durée relative de la concentration de l'être humain. Enfin, les participants ont une vie et risquent de se sentir prisonniers, pensant à ce qu'il leur reste à faire dans la journée plutôt que d'être pleinement dans l'instant présent. Si les participants se dissipent, c'est nécessairement que la réunion a un problème de gestion, de durée ou de nombre de participants. Le nombre de participants. On a parfois l'impression que plus il y a de personnes présentes, plus la réunion sera prolifique. C'est bien une idée reçue, le plus étant ici l'ennemi du bien. Les participants doivent être sélectionnés pour leur caractère indispensable, selon leurs compétences, leur profil, leur implication, les objectifs de la réunion, etc. L'organisateur devrait être en mesure de justifier précisément l'intérêt d'avoir chaque personne présente si on lui posait la question. Pour ma part, j'établis le seuil de rentabilité à une douzaine de personnes maximum. Les temps de parole sont encore respectés, chacun peut participer et il est plus simple de prendre des décisions collectives. J'ai participé un jour à une réunion où nous étions plus d'une vingtaine. Entre 5 et 7 personnes ont réellement été actives. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais assisté à une réunion composée de 7 personnes et de 13 spectateurs. Aucun intérêt. Si, malgré les filtres de sélection, il y a plus de 12 personnes à la réunion, il est plus intéressant de prévoir deux réunions, plus courtes, avec moins de personnes. Maîtriser le nombre de participants augmentera toujours la qualité de ce qui ressortira de ce temps commun. Le lieu, la configuration de la réunion. Le lieu ne doit pas être négligé. Il doit être adapté au nombre de participants et en adéquation avec les objectifs de la réunion. Comment demander un brief créatif dans un lieu terne? J'ai investi dans tout type de lieu suivant les projets que je veux développer. D'une salle ultra geek à la Défense à des caves cosy de bar. Mettez les participants dans des conditions optimales pour atteindre les objectifs. Dans le même état d'esprit, c'est à l'organisateur de mettre en état de marche les intervenants. Il faut prévoir un catering en fonction de la durée de la réunion et de l'heure de celle-ci, c'est-à-dire de la nourriture et différentes boissons. Mettre en marche la réunion si besoin. Voici un exemple concret. Pour une analyse de la stratégie de mon contenu, j'ai organisé une réunion à 7 participants. Il y avait 2 objectifs et j'avais prévu 1 heure par objectif, ce qui est déjà très long. J'ai donc opté pour une réunion de 4 heures décomposée comme suit. 40 minutes de catering et de discussion personnelle. Tous les intervenants se connaissaient bien et s'appréciaient, mais ils ne se voient pas forcément souvent. Je devais prendre cette donnée en compte. 80 minutes d'amusement cérébral coupé en 2 fois. J'avais prévu entre 30 et 40 minutes de jeu, le loup-garou, pour stimuler les participants, pour mettre leur esprit en mode enquête, puisque nous allions justement traquer les défauts et les qualités de mes vidéos et de ma stratégie éditoriale. Les bénéfices secondaires étaient de les mettre dans le bain en oubliant leur journée pré- ou post-réunion, que les quelques personnes qui ne se connaissaient pas vraiment se rencontrent enfin. La deuxième session de jeu servait de pause ludique entre les 2 sujets du jour et me permettait d'avoir encore un groupe concentré et actif pour la 2e heure, qui, je le précise, est un temps très long. Les meilleures réunions durent en moyenne 20 à 30 minutes seulement. Pour ces réunions, il n'est même pas nécessaire de prévoir des chaises. Je vous rappelle qu'une réunion n'est pas une pause. Si seulement 30 minutes ont été prévues, je peux vous assurer que vous gagnerez en productivité à avoir tout le monde debout, actif, présent et engagé dans le fait que la réunion doive se terminer pour retourner s'asseoir tranquillement à leur bureau. Il ne faut pas se laisser enfermer dans l'imaginaire visuel classique que l'on a d'une réunion. La forme de la réunion doit s'adapter à ses objectifs propres, loin de toute convention. Le retard et les départs prématurés. Si la réunion est calée comme elle doit l'être, alors aucun retard ne peut être toléré. C'est une perte de temps pour tout le groupe à cause d'une seule personne. Même si la personne prévient, son retard provoquera au mieux un décalage de la fin de la réunion dans le temps, au pire, un arrêt dû à son arrivée. Pour ces mêmes raisons, il ne peut pas y avoir de départ prématuré. Chaque départ occasionne une pause. Les horaires d'arrivée et de départ ne sont pas négociables. La synthèse de la réunion. Tout aussi important que le premier point sur le délégué temporel, une réunion doit prévoir un scribe. Cette personne silencieuse va consigner et prendre en note le contenu de la réunion. Elle est en charge, post-réunion, de préparer un compte-rendu avec les points suivants. Les problématiques, les solutions, les décisions, les pistes d'idées qui ont été écartées, hors sujet, non pertinentes, etc., mais qui présentaient globalement un intérêt. Les tâches qui ont été assignées à chacun pour la suite, les prochaines deadlines. Cette synthèse doit être faite au plus vite, entre 12h et 24h, tant que la réunion est encore fraîche dans l'esprit du scribe et des participants. Le scribe s'engage à l'envoyer à tous les participants ensuite. Il doit également l'envoyer à toutes les personnes non présentes ayant un intérêt à connaître les conclusions de la réunion. La personne qui prend le rôle du scribe doit changer à chaque réunion, à moins qu'une tierce personne qui ne participe pas aux échanges veuille bien prendre ce rôle à chaque fois. Une personne doit tenir une prise de notes permanente pour l'ensemble du groupe. Physiquement ou virtuellement. Est-ce utile de se voir, de faire des réunions physiques? Dans certains cas, oui, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Cette question ne se pose pas lorsque les participants sont déjà tous au même endroit, mais quand la réunion occasionne autant de déplacements que de participants, il faut absolument se poser cette question. Car au niveau individuel, le temps et l'énergie consommés seront énormes. Il existe aujourd'hui beaucoup de solutions en ligne, gratuites ou payantes, permettant de se réunir virtuellement, très efficaces pour les réunions inférieures à une heure. Il est important de noter que les réunions en visio sont souvent plus efficaces que celles totalement en audio. Savoir que l'on est vu par les autres nous oblige à nous montrer attentifs et vraiment impliqués dans la réunion. Cela évite également des incompréhensions et des malentendus. Le langage s'exprime dans le sens des mots, mais aussi dans nos attitudes, nos expressions de visage et nos intonations. Pour bien se comprendre, il faut donc se voir, mais pas nécessairement dans le monde réel. Si tous les participants doivent se déplacer pour se réunir, il faut envisager de faire une réunion virtuelle.